Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. La démographie française, d'après l'INSEE, il est clair qu'aujourd'hui, le pays vieillit. Le pic démographique de la France est attendu en 2044, avant son repli, nous dit l'Institut National de la Statistique. Toujours pas d'accord en Europe sur le plafonnement des prix du gaz. Pourtant, il faut bien trouver une solution. Aujourd'hui, nous avons un système qui fonctionne très bien quand tout va bien, avec cette tarification marginale où le prix du gaz drive l'ensemble des prix électriques en Europe. Mais quand tout déraille, effectivement, on est devant un système qui dysfonctionne et qui doit impérativement se réinventer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que l'Europe doit faire de la réciprocité en fait ? Est-ce que les Européens doivent avoir une attitude comme celle des Américains qui vont ouvertement subventionner leur économie à hauteur de 370 milliards de dollars ? Certains diront que c'est du protectionnisme, d'autres diront que c'est du bon sens. En tout cas, les Européens aujourd'hui vont se poser la question de savoir comment on répond à cette fameuse loi aux États-Unis qui a été votée l'été dernier et qui entre en vigueur début 2023. Et puis, ah oui, on verra qui va payer en 2023, justement. Et on sent quand même que les propriétaires sont en tête de gondole. Anne-Sophie Alsif, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. On peut aussi vous lire dans le magazine Forbes. Stéphane Van Uffel, bienvenue.
Bonjour, Nicolas.
On parlera, tiens, des perspectives de placement 2023, arbitrages. Vous êtes cofondateur de netinvestissement.fr et Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Voilà ce que nous dit l'INSEE. Il y a déjà 5 régions qui ont connu un pic démographique depuis 2015. La Bourgogne, Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Normandie, Hauts-de-France. Le pic de l'ensemble du pays sera en 2015. 44, et il y aura plus d'une soixantaine de départements où on aura entre 30 et 40% de la population qui aura plus de 65 ans. Je sais que ce sujet vous intéresse, Anne-Sophie Alsif. Quelles conclusions vous en tirez ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on le voit vraiment dans les chiffres. Et nous aussi, on fait des modèles de projection à 2050 sur l'évolution de la population, mais pas que sur le vieillissement, aussi sur la structuration des ménages. Combien on aura de personnes par ménage ? 1, 2, 3. Et aussi où les gens vont aller, vont se localiser. Ce qui est assez intéressant pour voir aussi où doivent être les infrastructures. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va vraiment avoir un très fort vieillissement. Donc, une part des plus de 65 ans qui va aller au-delà des 20% dès 2045. Avec une répartition sur le territoire qui va être très polarisée. Donc on voit qu'on va avoir de moins en moins de monde sur cette catégorie-là dans les très grandes villes qui vont se déplacer massivement dans le sud-ouest, dans l'est, mais un peu moins parce qu'il y aura les problèmes de réchauffement et de température qui vont être importants, et en termes de Bretagne. Et par contre, dans le centre de la France, là aussi vous allez avoir un vieillissement, vous allez avoir beaucoup moins de familles qui, elles, vont rester sur les littoraux et vont se concentrer en centre-ville, notamment en termes d'infrastructures. Comme vous allez avoir toujours un prix du logement qui va rester assez élevé, ce sera plutôt en périurbanité, ce ne sera pas forcément en centre-ville même, ce qui pose toujours la question des déplacements et des infrastructures écoles, hôpitaux. Et donc on va avoir une polarité qui sera de plus en plus importante, avec aussi en termes de ménages, le nombre d'enfants par femme qui va continuer de baisser, et on aura une majorité de ménages ou seuls ou à deux personnes, et en termes d'enfants, un ou deux enfants maximum, et ce sera plutôt la norme, un enfant. Donc on voit vraiment des mutations qui vont être très importantes d'ici 2050.
Oui, donc c'est pas si loin d'ailleurs.
Non,
et l'INSEE nous dit, à partir d'1,6 enfants par femme, l'ensemble des départements décline.
Tout à fait.
On a gardé en tête souvent, vous savez, il y a des chiffres qui s'installent dans les esprits, on a l'impression que ce sont des acquis inaliénables. 2,1 enfants par femme, ça fait déjà très longtemps qu'on n'y est plus.
On n'y est plus, c'est le niveau qu'il faut avoir pour renouveler une génération. Et en fait, ce qu'on a souvent eu en France, c'est comme on était plus près de ce taux que nos partenaires européens, notamment l'Italie et l'Allemagne qui sont encore plus bas, eh bien on s'est dit, nous ça va en termes de démographie, on n'a rien à craindre, mais en fait on voit qu'on a vraiment ce phénomène aussi qui arrive en France.
On n'en est quand même pas au niveau des Japonais, où on prend plus de couches-culottes pour adultes que pour enfants, heureusement. Mais Jean-Marc Vittori, la question démographique est assez rarement finalement traitée dans l'actualité économique, et pourtant elle est centrale.
Elle est évidemment essentielle. Vous avez cité le Japon à l'instant. On a l'air de découvrir ça en France.
Mais c'est vrai, on a l'air de découvrir ça.
Au Japon, c'est le cas depuis 15-20 ans, je crois.
En plus, ouais.
En Italie, c'est le cas. En Allemagne aussi. Et l'Allemagne a une population qui croît uniquement par l'immigration. C'est le cas aussi apparemment cette année, depuis cette année, en Chine. La population totale de la Chine décline. Je crois que c'est un mouvement tout à fait important. Il va se produire aussi en France. Ce mouvement, il est très très. On a tendance à croire à la fois que la démographie c'est quelque chose de le plus solide, et on se rend compte quand on regarde d'un peu près qu'en fait ça repose sur des hypothèses, comme beaucoup d'indicateurs économiques, et que ces hypothèses elles sont en fait assez fragiles. Vous évoquiez le taux de fécondité, qu'on a tendance à croire qu'il est toujours à 2,1.
Oui, ce 2,1. C'est comme vous savez les trois quarts d'une génération qui voulait être fonctionnaire. Ça a duré 25 ans, cette histoire.
Et il y a toute une série de projections, notamment les projections des Nations Unies, qui continuent de prévoir une population à 10 milliards d'habitants. Si on regarde les comportements de fécondité dans le monde entier, on se rend compte que c'est très peu probable qu'on arrive à ces niveaux-là. Et si on regarde ça dans son ensemble, ça a des conséquences absolument majeures.
C'est ça.
Donc 10 milliards, les prévisions, c'est 2060, 2070, et puis ensuite on est sur un plateau. Il y a d'autres projections qui ont été faites par des gens d'HSBC qui travaillent, de la banque HSBC, qui travaille pas mal sur le long terme, notamment son économiste en chef, James Pomeroy, en regardant d'assez près, en disant, si on continue plutôt les tendances actuelles, plutôt que de penser qu'elles vont s'infléchir, on aurait en 2100 4 milliards et non 10 milliards d'habitants. Ça change complètement les choses, ça change l'occupation des sols, Anne-Sophie l'a dit, mais si vous envisagez la question écologique, ça ne supprime pas la question, mais ça amène à se la poser de manière très très différente.
Stéphane Vanuffel.
Juste un mot, parce que ce que dit Jean-Marc est très juste. J'ai vu cette étude de d'HSBC dernièrement, en tout cas, des dernières conclusions, où 2050, je ne sais pas si c'est une date particulière, mais il y a une inflexion dans la population mondiale, c'est important ce que tu dis Jean-Marc, parce que les 8 milliards qu'on vient de passer, 2050 serait le début de la décroissance qui nous amènerait quasiment à diviser par deux en 2100 la population par rapport à aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet, parce qu'on nous parle de la surpopulation comme une des raisons très importantes de notre besoin de transition écologique et climatique. Et en fait, finalement, on voit que naturellement va se faire une décroissance de la population qui devrait partiellement régler un type de problème. Mais je mettais juste le doigt là-dessus, parce que ce qui est important, en tout cas pour la France et pour l'Europe, pour ces économies occidentales un peu vieillissantes, c'est qu'il va y avoir un changement de paradigme total. Dans les équilibres de population et dans les forces. C'est ça qui est intéressant dans le sujet de la démographie, en tout cas de mon regard à moi, et j'imagine évidemment des économistes, parce que c'est ça qu'il va falloir préparer. C'est là où, encore une fois, il va falloir qu'on se réinvente, et on sait qu'on a un peu de mal là-dessus.
Il y a aussi ça a aussi des conséquences sur le dynamisme d'une société, sur sa capacité d'innovation. Il y a un papier académique d'un jeune doctorant de Harvard, je crois, récemment, qui a montré que quand les inventeurs vieillissaient, ils inventaient moins. Et donc voilà, c'est juste. Mais il y a des milliers de choses qui vont changer avec ces
choses. Juste pour finir sur ce sujet, il y a quand même tout le débat sur aussi reculer l'âge de départ à la retraite.
J'allais vous le dire.
Donc, du coup, on va avoir un temps de vie plus long, avec donc un temps d'emploi qui normalement devrait s'accroître, normalement, après on le décrète pas, et donc ça pose aussi la question de réorganiser toutes les étapes de la vie, alors notamment en termes, j'imagine, d'épargne, de placement, mais également en termes de protection sociale, donc vraiment des immenses défis, et aussi surtout en termes d'infrastructures qu'il faudra prendre en compte 10, 20 ans avant, si on veut être préparé.
Mais c'est quand même intéressant, Nicolas, parce qu'on est en train de partir dans un sujet sur quelque part de travailler vraiment sur une qualité de vie, y compris à long terme, sur une population peut-être européenne, on va parler française, qui sera peut-être plus vieille en activité, face à une population mondiale, je pense au continent africain, à l'Asie, où il y aura peut-être plus de monde, comme déjà c'est le cas, plus jeune, mais qui vivra peut-être moins longtemps et pas dans les mêmes conditions encore. Donc c'est vraiment, pour moi, je trouve ça assez, quelque part, pas inquiétant plus que ça. Évidemment, on préférait avoir beaucoup plus d'enfants. La politique fiscale française est constituée uniquement là-dessus, avec les coefficients pour faire des enfants au cas où les Allemands reviendraient. Ça a plus de 150 ans. Il va falloir changer ça une bonne fois pour toutes et travailler sur des politiques.
Non, mais je caricature. Non, mais
le caution familial, il a d'autres événements, mais il part de ça au départ. C'était pour pousser des gens à faire des enfants. Maintenant, il faut donc repenser tous ces systèmes-là. Je trouve ça assez positif.
En tout cas, en France, ça pose aussi quand même la question du modèle de la protection sociale. On a tout socialisé, où finalement, on a les bien portants qui payent pour les malades, les actifs qui payent pour les retraités, ceux qui ont un travail qui payent pour ceux qui n'en ont pas. avec ces bascules démographiques, on est devant une vraie question. Enfin là, il y a un moment où on touche les limites physiques des choses. Le compromis sur le plafonnement du prix du gaz en Europe n'est pas intervenu hier. Les 27 ont repoussé au 13 décembre l'éventualité d'un accord. Plusieurs pays, notamment l'Espagne et la France. L'Espagne a parlé de plaisanterie au sujet du mécanisme de plafonnement imaginé par Bruxelles. Ils ont jugé donc trop élevé le plafond proposé par la Commission européenne de 275 euros le mégawattheure, sachant que le prix actuel de marché avoisine les 120 euros. Vous écrivez, Jean-Marc Vittori, le 17 novembre dans Les Échos, il faut réinventer le marché de l'électricité.
Oui, le marché de gros, hein, oui. Donc on ne s'adresse pas ici à tous ceux qui regardent leur compteur à la fin du mois et leur facture d'électricité. Pour l'instant. Mais le marché de gros, le marché de gros, il était conçu à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Union européenne, et avec un principe de tarification, qui est la tarification au prix marginal. Hein. Donc le prix qui s'impose à l'ensemble des acheteurs, c'est le prix de la dernière unité d'électricité produite.
Et aujourd'hui, c'est
le gaz. Et cette unité, elle est produite aujourd'hui avec le gaz. Le gaz, ça fait à peu près 20% de la production d'énergie en Europe. Mais la dernière unité, hein, celle qu'on, la centrale qu'on met en route quand il fait froid et qu'il faut des mégawattheures supplémentaires, eh bien, c'est le gaz. Or, le gaz...
20%, mais... Voilà, ça pilote 100% du prix.
Ça pilote 100% du prix. Et le prix du gaz, suite à ce qui s'est passé en Ukraine, en Russie et en Europe, en réaction à la guerre lancée par la Russie en Ukraine, le prix du gaz, il s'est envolé à des niveaux qui peuvent être qualifiés de délirants. Mais parce que le gaz, c'est quelque chose de particulier, ça circule très majoritairement par des tuyaux. Donc vous êtes... Si vous avez décidé d'acheter du gaz à la Russie, le tuyau, il va de la Russie à l'Europe et c'est très très difficile de changer, ça prend du temps. Soit il faut construire d'autres tuyaux, soit il faut construire des méthaniers et des usines de liquéfaction de gaz et ça prend énormément de temps et actuellement on n'a pas encore fait ça. Donc on a des prix du gaz qui se sont complètement envolés et donc qui ont fait s'envoler l'ensemble des prix de l'électricité. Alors on peut dire...
Très bien expliqué Jean-Marc, parce que c'est sacrément compliqué ce marché à comprendre.
Voilà. Alors face à ça, le réflexe français c'est de dire oh là là, il faut arrêter le marché et il faut fermer les frontières et se débrouiller nous avec notre nucléaire. Alors premièrement, notre nucléaire, quand il marche, il produit l'électricité pas chère, mais l'expérience récente prouve qu'il marche pas toujours, et puis on a fermé une centrale qu'on aurait peut-être pas dû fermer. Bref, bon. Et on voit bien que quand on développe des énergies renouvelables, il faut au contraire ouvrir. Hein. Si on a du soleil au sud, quand on a besoin d'électricité au nord, c'est bête de fermer les frontières. Et s'il y a du vent au nord au moment où on a besoin d'électricité au sud, c'est bête aussi de fermer les frontières. Donc il faut au contraire, plus encore avec les énergies renouvelables qu'avec les énergies d'origine fossile, il faut absolument ouvrir le marché.
C'était les vertus. Ça, c'était les vertus du système actuel.
Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le mode de tarification. Le mode de tarification, clairement, actuellement, il ne fonctionne pas. Alors là, il y a un problème qui est difficile. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut dire il faut faire autrement pour ce cas-là. Alors, moi, je ne suis pas à l'aise parce que c'est exactement ce qu'on avait dit en 2008. Hein. En 2008, quand les marchés financiers avaient craqué, il y a beaucoup de gens qui avaient dit la plupart du temps, ça marche, mais là, on a eu un petit problème ponctuel, donc il faut faire un petit machin. Moi, je crois quand on a un gros problème à un moment donné, on ne peut pas se dire que c'est uniquement exceptionnel et qu'on va régler ça. Et
puis, ce n'est pas exceptionnel.
Donc, je crois qu'il faut réfléchir autrement. Et en même temps, avoir une gestion centralisée, décidée par l'État de l'électricité, ça paraît extrêmement compliqué et surtout très peu efficace. Avant le marché européen unique, c'était EDF. C'était l'État qui pilotait EDF, qui pilotait la production d'électricité. Mais on fonctionnait déjà au coût marginal. Hein. Il y avait Marcel Boiteux, un grand économiste qui avait dirigé EDF, théorisé, juste après-guerre, la tarification au coût. Donc, ce n'était pas le prix marginal sur le marché, mais c'était le coût marginal de production. Mmh. Eh bien, on faisait intervenir d'abord la centrale qui coûtait peu cher, puis ensuite la centrale qui coûtait un peu plus cher, puis voilà. Et c'est comme ça que vous avez la production la plus efficace. Donc ça, il faut garder cette dimension-là. Et en même temps, il faut éviter ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense vraiment qu'il faut réinventer le marché. Il y a plein de solutions. Alors là, il y a un débat très vif en ce moment entre économistes européens sur le sujet, avec des propositions espagnoles, grecques, allemandes, belges, françaises aussi, évidemment. Moi, je pense qu'il faut en fait deux marchés qui sont articulés l'un à l'autre. Un marché avec des prix qui peuvent être extrêmement volatiles et qui peuvent varier très très vite. Donc c'est tout ce qui dépend du fossile, hein, donc l'électricité au charbon, au pétrole, au gaz. Et donc là où il faut garder cette notion de prix marginal...
sur le thermique, donc voilà, sur le fossile.
Je dirais à la seconde. Mmh. Et en revanche, pour d'autres formes d'énergie qui nécessitent des investissements lourds, mais dont les prix ensuite sont beaucoup plus prévisibles, on peut avoir un autre mécanisme de marché, qui sont des appels d'offres avec des contrats à long terme. L'Europe jusqu'à présent a été très très réticente cette idée. Enfin, pendant longtemps, la Commission européenne s'est méfiée des contrats à long terme parce qu'elle dit que ça allait casser la concurrence, ça allait empêcher la concurrence. On allait avoir des arrangements, c'était pas sain. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une partie du marché qui soit sur des appels d'offres à long terme. Donc, on a bien un mécanisme de marché, mais qui est d'une nature différente de l'ajustement instantané.
Bon, oui, si vous voulez dire un mot, je crois que là, on a bien essoré le sujet avec un niveau de clarté absolu. Allez-y, non, si vous voulez rajouter quelque chose.
Pour compléter, donc, en effet, les appels d'offres et surtout sur le financement de l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mis en avant, notamment dans les filières auto, en disant qu'aujourd'hui, pour énormément de types de véhicules, on n'a pas une solution miracle. Alors, c'est vrai qu'il y avait le but de toute l'électrification, de toutes les voies, les routes, etc., mais ça coûte énormément d'argent. On voit que même en termes d'efficience, parce que ce n'est pas seulement émettre le carbone, c'est aussi à partir de la construction du véhicule et de la dépendance aux métaux rares, ce n'est pas forcément ce qui est toujours le plus efficace. Donc, on est vraiment dans une problématique de mix énergétique, et ça, pour le trouver par type de véhicule, poids lourd, véhicule public ou voiture, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que quand on entend les industriels, c'est un peu ça la préoccupation, c'est se dire on est sur le tout électrique, on est sur le tout gaz, et en fait on n'est jamais dans la diversification et dans le financement d'une innovation par type de produit qui serait vraiment le plus efficace et économiquement et au niveau de l'environnement.
Juste, Stéphane Venufel.
Ouais, je rajoute juste une chose parce que il y a dans l'édito de Jean-Marc plein de choses très intéressantes. La notion de concurrence, ça va être forcément le vrai sujet de discussion entre les camps, je vais dire ça comme ça. Là aujourd'hui, il y a un truc très intéressant et j'appuie là-dessus. Il faut se pencher sur le sujet de la planification. Et c'est très intéressant parce que le gaz, on peut le liquéfier, on peut le transporter, on peut le garder. L'électricité, c'est tout de suite un circuit extrêmement court. Donc ce que dit Jean-Marc est extrêmement important. C'est qu'il faut pouvoir planifier. Et évidemment, c'est là où, alors là, on est un peu franco-français, parce que sur le nucléaire, qui fait partie des moyens de faire de l'électricité de planification assez simple, à un coût qui reste encore assez attractif, la France sera en avant, donc évidemment, elle va défendre plutôt ce camp-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais enfin, en tout cas, c'est important d'avoir cette notion de pouvoir prévoir l'automobile étant évidemment un sujet sur lequel l'Europe s'est complètement ratée. J'en avais parlé ici, parce qu'on faisait des voitures électriques sans prise pour le faire. Donc ça, c'était magique. Ça remonte à 10 ans déjà. Hein.
Jean-Marc Guitéry.
Oui, juste sur le fonctionnement du marché tel qu'il a été mis en place il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il y avait premièrement le problème du prix marginal qui peut devenir excessif dans des conditions très particulières. Alors, comme ce qu'on a aujourd'hui.
Compte, oui.
Il y avait un autre problème dont la conscience montait lentement, c'est que le système n'encourageait pas assez des investissements à long terme. Et par rapport à la notion d'innovation et par rapport aux investissements dans le renouvelable ou dans le nucléaire, on savait qu'il y avait un problème. Et donc, si on a ce double marché, ça permet de régler ce problème qui existait et dont on savait, même s'il n'y avait pas eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce problème-là, ça serait posé.
Et Jean-Marc, c'est un sujet qui devrait être pris en main par une commission donc européenne et non pas par des pouvoirs publics locaux qui ont donc des visions électoralistes, je ne leur jette pas la pierre du tout, mais très courtes. Donc cette réaction, elle ne peut être menée quelque part que par un haut fonctionnariat européen qui a un... C'est moi qui le dis, Nicolas va rigoler. Il y a un sujet de planification.
Non, donc là, vous voyez,
je viens d'avoir une larme de sang en disant ce mot. Moi-même, je m'écoute, j'ai envie de tomber dans les pommes. Mais c'est important. Non, mais c'est important. C'est sur des vrais sujets stratégiques. Là, c'est pour nos enfants dont on parle. Nous, c'est fichu pour
plus
nous.
Juste pour réagir par rapport à ça, c'est vous revenez au point de la politique industrielle européenne. Et là, le problème, c'est comme ça n'avance pas parce que les intérêts sont divergents. Voilà, chacun essaie de trouver sa solution, malheureusement.
Pardon. Justement, on voit que l'Europe sur bien des sujets peine à avancer. Alors, il y a évidemment le sujet du marché de l'électricité tel qu'il a été construit, mais qui dysfonctionne dans les circonstances actuelles. Et puis, il y a aussi la position des Européens par rapport aux grands blocs, et notamment les États-Unis. Donc, les ministres du Commerce sont à Bruxelles aujourd'hui. Ils vont évoquer cette loi de réduction de l'inflation aux États-Unis. Elle a été adoptée l'été dernier. Elle s'élève à 370 milliards de dollars. C'est tout simplement de la subvention par les Américains à l'ensemble de l'économie américaine. Ça entre en vigueur début 2023. Donc, je vais marquer une pause maintenant, parce qu'on va pas ouvrir le sujet à 55 secondes de la coupure, mais voilà. Un marché complètement ouvert comme le nôtre, oui, évidemment, on sait à quoi ça conduit. C'est un moteur de compétitivité, un moteur d'efficacité, de gain de pouvoir d'achat. Mais un marché totalement ouvert quand la compétition mondiale ne l'est pas, est-ce que c'est quelque chose de tenable ? À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Elle est également chroniqueuse dans Forbes, une fois par mois, c'est ça ?
Oui. Ouais.
Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Il y a cet auditeur qui s'appelle Tony et qui dit concernant la loi contre l'inflation aux États-Unis, est-ce que l'Europe ne pourrait pas appliquer une forme de réciproque en imposant un surcoût de tant d'euros sur les véhicules construits aux États-Unis qui serait donc... Bah, là, ça s'appelle des droits de douane, ça, en quelque sorte. Oui. Et là, l'idée aujourd'hui que va essayer de défendre Elisabeth Borne qui se rend à Berlin, c'est plutôt l'idée du Buy European Act. Bon. Maintenant, Anne-Sophie, la question central, c'est de savoir si effectivement on continue à regarder passer les trains, on reste l'espèce de filet de la table de ping-pong avec la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, avec notre bonne conscience en bandoulière, non au protectionnisme, oui au libre-échange, oui à la concurrence parfaite et non faussée, ce qui malheureusement n'est pas vraiment la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des géants de l'industrie allemand qui sont en train d'aller prévoir des investissements colossaux sur le sol américain, légèrement appâtés par ce que Joe Biden est en train de mettre en place.
Très bien résumé, Nicolas. Moi, je pense en effet qu'il faut pratiquer ce protectionnisme agressif. C'est pas qu'on est pour ou contre, qu'on est contre ou pas le libéralisme, c'est que les autres le font.
Ben voilà.
Donc, il y a pas de débat de c'est bien, pas bien. On dit, ah, les règles de l'OMC, il n'y a même pas de juge. Donc, il faut arrêter, même si vous avez une condamnation. Je pense que c'est pas tout ce qui fait peur à la Chine ou aux États-Unis qui recevront la condamnation avec sourire en disant c'est bien.
Si les Chinois avaient peur de l'OMC depuis 2000 ans, ça serait
rendu compte. Voilà, on le serait. Donc, à un moment, je pense qu'il faut arrêter. Nous, on le voit vraiment dans les Chinois. Enfin, ce protectionnisme existe depuis 20 ans, est vraiment accéléré depuis, on va dire, 5-6 ans, notamment en Chine. Donc, on a un rapport de la Commission qui regarde justement tous les obstacles au commerce et donc qui augmente vraiment massivement pour la Chine, mais pas que pour la Chine. Hein. Vous avez des pays comme l'Inde, comme l'Algérie, comme la Russie qui sont aussi extrêmement protectionnistes, hein, dont on parle beaucoup moins parce que c'est des marchés qui sont moins importants pour l'Europe. Donc, il y a vraiment cette idée de dire attention, il faut protéger notre marché, il faut revenir sur une zone d'influence. Donc, l'idée, c'est pas de dire on est contre la mondialisation, etc. Mais les grands pôles veulent être vraiment leaders sur une zone régionale, hein, géographique. Les États-Unis, on le voit, hein, leur politique en termes énergétiques, hein, ils sont efficients depuis 2 ans avec le pétrole et le gaz de schiste, mais quand ils apportent de l'énergie, ils le font du Mexique et du Canada. Ils ne le font plus de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Donc vraiment, on régionalise. Hein, on a la sphère d'influence Amérique, on a l'Asie avec le RCEP et toute la zone commerciale Chine, hein, qui a signé le plus grand traité commercial et qui est sur cette zone-là. Donc il peut complètement se substituer situé à la dépendance européenne. Et nous, normalement, on avait une zone d'influence, on va dire Europe-Afrique, qu'on a complètement perdu au profit des Chinois. Donc on n'a pas du tout, nous, ce modèle de régionalisation que les autres ont, mettent en œuvre depuis 20 ans, quels que soient les gouvernements successifs. Ça, c'est vraiment important de le dire. Hein. On le voit aux États-Unis, pas en Chine, mais en tout cas aux États-Unis, quels que soient les changements, il y a cette politique-là. Et concrètement, on va utiliser le réchauffement climatique pour protéger son marché, pour essayer de regarder où sont créés les produits pour pouvoir tracer, hein, c'est ce que font les États-Unis avec les voitures et les batteries, en disant voilà, si ça vient de la Chine, c'est non. Et avec ça, avec le localisme qu'on va défendre par le réchauffement climatique et la transition, on va mettre des règles de plus en plus importantes pour protéger son marché et pour taxer tout ce qui est étranger à l'industrie, alors là, par exemple, américaine, pour se réindustrialiser. C'est une stratégie qui est, on va dire, assez efficace, puisqu'en plus, on va dire que l'argent public, là, par exemple, que met les États-Unis, bah, est réinjecté dans l'économie européenne. Donc, on le voit qu'aussi, politiquement, c'est quelque chose de très fort. Trump l'avait beaucoup développé. On voit que Biden exactement sur
Obama,
etc. Quand vous regardez les négociations, donc il y a vraiment l'idée de dire on se régionalise, on se protège et on utilise tout ce que l'on sait sur les chaînes de valeur pour mettre des normes, pour essayer de privilégier notre industrie. C'est vraiment du protectionnisme. Ça va en effet contre les règles de libre-échange, mais c'est exactement ce qui se passe. Et sinon, en Europe, on ne fait pas pareil. Sachant qu'on a des avantages, on le dit toujours, parce que c'est toujours ça, ah, attention, si on fait ça, on va avoir des problèmes de réciprocité. Mais là, je pense qu'il faut arrêter. On a quand même quelques exemples, comme le Royaume-Uni, qui devait, avec le Brexit, être sauvé par le grand frère américain, notamment en termes de politique commerciale. On voit aujourd'hui rien du tout. Donc ça, je pense qu'il faut arrêter avec ces croyances qui sont plutôt du dogmatisme que du pragmatique économique. Et vous l'avez très bien dit aussi, qu'est-ce que l'on voit en Europe? C'est que tous les pays, alors au niveau européen, on dit qu'il faut rester libéral, mais tous les pays n'ont pas du tout la même politique. Et vous l'avez dit, l'Allemagne, dès que son automobile est menacée, a déjà pris son billet d'avion pour les États-Unis en disant « vous pouvez sanctionner les autres, mais pas nous ». Donc on voit que le libéralisme et ces valeurs-là s'est défendu quand on est tous ensemble, mais que dès que la réunion est finie, eh bien chacun va essayer de jouer son jeu, et en premier lieu les Allemands.
Halte au libéralisme, Stéphane Van Uffel. Halte au dogmatisme. Osons le protectionnisme en Europe.
La démonstration.
Si Jean-Marc Daniel était là, il fulminerait.
Il faut aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin de temps en temps, parce que dans la démonstration qui est très claire, il y a des choses aussi qui sont réelles. C'est l'image de la fin de la réunion. On est tous d'accord et tout est formidable. On va dans le même sens et quand on sort de la réunion, chacun retourne s'occuper de ses propres problèmes. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez là. Là où moi je suis un peu partagé par tout ce sujet, c'est peut-être un peu parce que j'ai une vision idéologique des choses aussi. C'est qu'on mélange. Un libéralisme qui, on va dire grosso modo, un marché libre, mais qu'on voudrait quand même essayer d'un marché que je vais appeler mathématiquement pur. Alors là, je me tourne vers l'économiste, où en fait, si tout se passait bien, ça marcherait bien. Je ne suis pas naïf, voilà. Et on mélange avec du capitalisme, parce que les Américains, ils ont cette notion de protectionnisme. Ils sauvent American Airlines quand il faut sauver American Airlines. Ils vont ne consommer qu'américain quand il faut consommer américain. Et puis aujourd'hui, quand ils consomment vraiment hors américain, c'est... le Mexique et le Canada, c'est-à-dire, on va dire, la zone d'influence extrême des États-Unis qui écrase d'un point de vue concurrence ces deux pays. Ils n'ont pas le choix de fixer leur propre prix, etc. Et je ne parle pas de l'Amérique latine et de l'historique de l'Amérique des États-Unis avec l'Amérique latine. Mais c'est du capitalisme, ça, c'est pas du libéralisme, c'est pas un libre-échange. C'est, on pousse le capitalisme dans un rapport de force extrêmement fort. Et en face, qu'est-ce qu'on nous propose comme solution? Du protectionnisme. Et dans la liste, des pays qui nous sont cités comme exemple d'un protectionnisme efficace et qui, économiquement, à part les États-Unis, dont on peut parler en termes de régime politique, tous les autres sont des énormes modèles de démocratie. Non, mais donc, il faut poser aussi le sujet pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas simplement des théories économiques qui pourraient fonctionner dans un sens ou dans un autre, puisque personne n'est naïf, mais c'est plus simple pour les Chinois. C'est même plus simple pour les Indiens, qui sont censés être d'une démocratie. On peut en rigoler. C'est plus simple pour les États-Unis aussi, parce qu'ils ont un système politique plus direct. Nous, on a 27 pays qui, quand ils sortent de la Réunion... sont pas d'accord. Donc c'est pas un protectionnisme européen.
Les Français sont un très bon exemple
Je vous donne juste un exemple en lien, ouais. Après je laisse Jean-Marc, par rapport à ce dont on parlait sur le gaz et l'électricité.
Mais c'est un sujet qui se
range. Les Polonais aujourd'hui se réveillent en disant il faut que l'Europe vienne en aide à la Pologne sur ce sujet-là, parce que eux sont extrêmement dépendants, comme l'Allemagne, mais ils sont pas l'Allemagne. Ils n'ont pas le poids économique, ils n'ont pas les moyens de se délocaliser. Et on parle d'un pays qui achète des avions hors constructeur européen. Et c'est le libéral qui vous le dit. Pourquoi ? Parce qu'Airbus, c'est pas du protectionnisme, c'est un mélange de la force de plusieurs savoir-faire, de plusieurs pays européens, y compris un qui est sorti entre-temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on n'est pas en train de parler d'un capitalisme qui est tordu intellectuellement. C'est ça que je défends, ce libéralisme à la française dont vous vous moquez des fois, Nicolas, parce que je suis pas un ultralibéral. Le libéral, c'est pas du capitalisme effréné, c'est pas de la financiarisation effrénée.
J'ai quand même le sentiment, Stéphane, dire que les marchés publics européens seront réservés à des entreprises européennes, ça peut se faire en démocratie.
Oui, mais Nicolas, le problème, c'est qu'elles sont pas compétitives en vrai. Il est vrai, le problème. Mais non. Regardez ce que fait Thierry Breton sur les microprocesseurs. Bah, écoutez, je suis désolé. Voilà, enfin, la commission européenne monte au créneau pour qu'on arrête de tout acheter à Taïwan. Parce qu'en 3 semaines, s'ils coupent les vannes, on n'a plus les puces
c'est
stratégique.
Pour les États-Unis, c'est exactement la même chose. Ils ont bien dit dans plein de secteurs, de toute façon, nous, c'est aussi des industrialisés, on n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y a un facteur, prix. Le marché européen, ce n'est pas non plus un tout petit marché. Non, on n'est pas quand même une easy-puissance en termes commerciaux.
Oui, mais
c'est
les États-Unis. Les États-Unis peuvent influer sur le prix d'un pays du tiers monde, pas l'Europe, en fait. On ne le fait pas, en tout cas, parce qu'on a.
on le fait pas parce qu'on a bonne conscience. On le tente pas et qu'on pense. Et c'est la même chose avec la Chine. On peut rien faire parce que donc sinon, on n'aura plus d'échange, on n'aura plus de relations économiques. Donc on est complètement terrorisé. Mais les autres le font et on voit que ça se passe en fait.
Non, mais pas les autres. Les États-Unis.
Non, la Chine aussi le fait. Et la Russie, on voit avec la guerre, la fait aussi. Alors que la Russie était complètement dépendante du carburant.
Donc
attention. C'est justement avec cette vision qu'on a souvent du mal nous à prendre des décisions politiques courageuses.
Par rapport à ce débat, tout ce qui vient d'être dit et qui donc occupe, au même titre que le marché de l'énergie, occupe les Européens et constate, on ne peut que constater la difficulté à se mettre d'accord et les retards qui s'accumulent.
Alors, l'Europe continue tout de même d'avoir un excédent commercial avec les États-Unis. Oui. Hein, c'est pas du tout pareil avec la Chine.
C'est vrai.
Bon, première chose. Deuxième chose, par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, hein, qui est au passage un merveilleux bijou d'habillement, hein, puisque c'est, on parle de réduction de l'inflation, alors qu'en fait c'est le contraire. Voilà, non, mais les mots ont leur importance. Hein, je pense que voilà, les Américains sont aussi assez forts là-dedans. Par rapport à ce qui se passe, on ne peut pas ne rien faire. C'est comme dans une petite équipe de travail, vous avez une petite équipe de travail qui fonctionne très bien. Et puis il y a un nouveau qui arrive, et ce nouveau, il se comporte moins bien, il est agressif, il veut prendre le boulot de l'un, il veut prendre l'émission de l'autre, etc. À ce moment-là, il y a deux solutions. Soit vous ne faites rien, mais dans ce cas-là, vous êtes balayé assez vite. Soit vous êtes obligé de changer. L'Europe, elle est comme ça. Il faut qu'elle change.
C'est comme pour le prix du gaz.
Alors ensuite, il faut qu'elle change face à une offensive américaine qui est forte. En France et en Europe, on parlait depuis des années et des années de la possibilité de faire un Buy European Act. Il y avait les uns qui disaient c'est pas possible, les autres qui disaient on va avoir des problèmes avec l'OMC. Mais les Américains, ils ont fait un Buy American Act depuis très très longtemps, hein, parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait quand? Vous vous souvenez pas encore? Ils l'ont fait pendant la Grande Dépression. Hein. Ils ont commencé à le lancer pendant la Grande Dépression. C'est quelque chose qui ciblait les petites et les moyennes entreprises. En Europe, on a dit non, on peut petites et moyennes entreprises, même ça, on ne peut pas faire. Ce qui se passe avec le passage du Buy American Act au plan de réduction contre l'inflation, on ouvre ça aux grandes entreprises. On passe des petites entreprises aux grandes entreprises, donc y compris les multinationales, et on va attirer les multinationales des autres pays, des autres régions du monde. C'est exactement ce dont vous parliez avec les Allemands. Donc, si l'Europe ne fait rien, elle va partir dans le décor. Et donc, il faut trouver les moyens de faire quelque chose. Mais on voit bien tout de suite que dans les discussions qui sont en cours à Bruxelles, il y a des gens qui disent « Ah, mais attention, on va avoir des problèmes avec l'OMC. Attention, on va fermer le marché, donc on n'est déjà pas très efficace, on risque de l'être encore moins. » Voilà.
On n'aura pas de problème avec l'OMC.
Il faut quand même se méfier de ce retour en arrière sur des stratégies de protectionnisme. Elles peuvent être très réinventées, hein, pardon, je fais attention à ce que je dis. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on le voit déjà qu'on a tendance, en tout cas, une fois que la réunion est terminée et qu'on est tous rentrés chez soi, d'être naturellement sur un protectionnisme naturel, les Allemands étant quand même les énormes spécialistes de ça. C'est-à-dire quand même, ils utilisent l'Europe quand ça les arrange vers l'extérieur, en tout cas, dans l'autre sens, à chaque fois, ils bloquent. Donc j'ai peur que de repartir sur cette théorie uniquement, de créer ce bloc et d'espérer que ce bloc européen, en fermant les vannes et en se braquant, comme le font les autres, face aux politiques, on a un peu insufflé, parce que l'OMC, c'est quand même toujours des idées qui viennent un peu de chez nous, la Société des Nations également à l'époque, ça a raté, parce qu'en fait, on a toujours des bons sentiments, l'Europe. Donc, je suis d'accord avec le sujet qu'il faut taper du poing sur la table. Mais le meilleur moyen de taper du poing sur la table, c'est d'avoir une zone d'influence économique qui soit en mesure d'être concurrente, soit avec la Chine sur des coups bas, soit avec les États-Unis sur la partie influence. Parce que je suis désolé, mais aujourd'hui, les États-Unis, ils peuvent aussi se permettre énormément de choses parce qu'ils ont aussi une influence qui va au-delà simplement d'une stratégie économique d'expansion ou pas. Ils sont puissants, ils ont la plus grande armée du monde, leur monnaie reste quand même quelque part un étalon caché. Nicolas,
même
je vois soulever les
dents. Même pas caché.
Non, mais ça n'est plus officiellement. Et donc, ça change tout. Donc, on ne peut pas simplement se dire c'est parce qu'on va taper du poing sur la table, se mettre tous ensemble et qu'on va être mieux. Non, on n'a qu'à. Dans les nouvelles technologies, c'est un exemple. Si on veut être un bon concurrent avec tous ces pays-là, on n'a qu'à avoir des grands groupes qui vont pouvoir, à un moment donné, travailler là-dessus.
Il faut des stratégies. Là, vraiment, je pense qu'il
pas
faut nuancer.
Pas du protectionnisme, c'est de la stratégie économique.
Il faut vraiment nuancer parce qu'il y a deux choses. Le protectionnisme, pourquoi il a été condamné économiquement? Parce que pendant très longtemps, c'était du protectionnisme tarifaire. Donc, vous augmentiez les droits de douane du jour au lendemain.
Très
comme
juste. Ça, c'est de l'inflation à l'arrivée. Hein.
Exactement.
Bon, très, très juste.
Et c'est en effet le pouvoir d'achat du consommateur en moins. On le voit aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé quand il a fait ça sur l'auto et dans plein de secteurs. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. c'est du protectionnisme stratégique qui est justement d'influence pour garder et protéger son marché. On utilise de la norme. C'est que du protectionnisme de normes. On ne va pas vous dire, ah non, mais vous n'avez pas du tout accès à mon marché. Les Américains vous disent, bah, écoutez, nous, on est écologique et on est devenu écologiste. Donc, de fait, on préfère avoir des voitures qui soient fabriquées chez nous. Donc, c'est juste avec la transition. Qu'est-ce que vous allez rétorquer
toute la théorie européenne first, quoi. Voilà. Bah, on fait du Trump.
C'est ça aujourd'hui. Okay, bah, c'est si ça aujourd'hui le protectionnisme. Donc, on est
plus intéressant que les protectionnistes européens se mettent à avoir les mêmes théories que Donald Trump. On est quand même, on vit un bon moment.
Oui, je suis content ce matin d'être venu. Question, Biden a repris et Obama fait pareil.
Biden fait de l'ultralibéralisme et de l'autre côté, les Européens veulent faire du Trumpisme.
Non, c'est pas du tout du Trumpisme. C'est un courant de pensée qui aujourd'hui, on utilise en effet le réchauffement climatique parce que l'on sait qu'avec ces transitions, il y aura de nouveaux acteurs, etc. Et donc, il faut protéger son marché et on utilise la norme pour ça. Donc, on n'est plus du tout dans le libéralisme avec le protectionnisme tarifaire qu'on a connu. On n'est plus du tout dans ce modèle. Donc, il faut arrêter d'en parler.
Je pense que c'est, je suis d'accord sur le principe.
C'est la norme. Si c'est la norme aujourd'hui.
Ils doivent mettre leurs forces de frappe ensemble pour financer peut-être des grands développements. La transition écologique étant sûrement le dernier point où on pourra peut-être s'imposer ou en tout cas s'équilibrer. Parce que là, pour le coup, on maîtrise un peu, en particulier sur l'électricité. On a quand même, la France est quand même très en pointe sur des choses. Mais je ne pense pas que ce soit des normes. Alors là, si en plus vous voulez que je tombe vraiment, vraiment par terre, il faut rajouter des normes.
Mais non, mais.
Parce qu'alors là, on est sûr et certain, regardez le système bancaire que je connais.
Vous confondez, ce n'est pas une question de on met des normes en plus. C'est que les autres. Aujourd'hui, le nouveau mode de protectionnisme n'est plus le tarifaire, mais le non-tarifaire. Donc la norme n'est pas là pour mettre des règles, etc. Elle est là pour protéger votre marché. Et donc vous utilisez ça auprès de vos concurrents en disant « Non, mon marché est libre, c'est juste que mince, vous n'êtes pas dans les bonnes normes. » Donc c'est tout. Donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de mettre des normes, la bureaucratie, tout ça, etc. Ça n'a absolument rien à voir dans ce débat. Et aujourd'hui, il faut s'adapter à ça. Et si on ne le fait pas, vous l'avez dit, on va juste perdre des marchés. Et ça, toujours d'être en mode avec notre épée, nous, l'Europe, on est moins bon, etc. Il faut juste arrêter, écouter ce que des étrangers, ils disent, ah bah oui, aux États-Unis, en Chine, vous êtes toujours en train de vous croire inférieur économiquement. L'Union européenne, c'est probablement la première puissance commerciale au monde, on va dire, ah oui, etc. On a en effet des excédents, bon. On a aussi beaucoup de nouvelles technologies. Donc juste pour finir là-dessus, je pense qu'il faut des fois arrêter quand la Chine, la Russie ou les États-Unis le font, ils ont aussi plein de défaillances dans plein de domaines, et par contre, ils sont offensifs et belliqueux, nous non.
Bon, ça je suis d'accord.
Voilà,
si on veut un marché pur sans protectionnisme, dit David, il faut peut-être faire du protectionnisme en réponse. Quand on en a en face de nous.
Bah voilà. Donc on a bien avancé. Là, on a bien avancé.
C'était Jean-Marc Vittori il y a quelques années qui avait dit au moment de la. De toute façon, celui qui paye à la fin, c'est l'épargnant. Bah, moi, je dis que celui qui va payer en 2023, c'est le propriétaire. Parce que là, on a commencé à avoir toutes les remontées du terrain sur les futures hausses de taxes foncières. Dire qu'on se refait la cerise de la suppression de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, personne ne l'admettra, mais enfin, il y a un peu de ça. Et puis, on a eu aussi des remontées sur l'incroyable hausse de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, car elle n'a pas été retirée pour les résidences secondaires. Si je vous dis, Stéphane, c'est les propriétaires qui vont payer. Alors, ils payent l'IFI, ils vont se prendre des plus 40, plus 50% de taxes foncières, des plus 60% de taxes d'habitation sur la résidence secondaire, il y a bon.
Hein. Vous avez bien répondu ce que j'allais dire, on va réagir à Sophie qui ne va pas être d'accord je pense, mais non, les propriétaires ils payent déjà, Nicolas ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, attention à ce qu'on dit quand même, parce qu'il faut être quand même très honnête, moi je connais très très bien l'immobilier, vous le savez, parce que au-delà de notre investissement, je gère aussi l'entreprise qui gère de l'immobilier, d'investissement. Donc on n'est plus sur la résidence principale qui est quand même le sacro-saint sur lequel j'espère qu'on va rester un peu raisonnable. Deux choses très importantes, parce que là on entend beaucoup de choses et ça ressent un peu cette odeur de poujadisme que je n'aime pas du tout. La taxe foncière, je ne suis pas très très fan parce que je me promène beaucoup dans Paris, de la politique des transports dans Paris, de la mairie de Paris, et on ne va pas jeter encore la pierre à la maire de Paris, mais sur la taxe foncière de Paris où ça fait un scandale parce qu'on a augmenté de plus de 50% la taxe foncière à Paris, c'était une taxe foncière qui était très très faible à Paris par rapport à la grande majorité des villes de France. Hein.
Donc, notamment parce qu'on avait un mètre carré très cher.
Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas idiot. Oui, d'accord.
Mais je reviens
quand même sur une logique. Mais donc, s'il y a une certaine logique, et vous venez de le soulever, parce que l'autre sujet que je voulais dire, c'est qu'il y a un certain nombre de taxes, et la taxe foncière en font partie, qui étaient calculées sur des bases de calcul qui sont erronées. Ou alors qu'on a adapté, parce que le prix mètre carré étant cher à Paris, bah, finalement, on ne va pas monter trop la taxe. Au final, ça revient au même. Vous voyez ce que je veux dire ? Le propriétaire, à la fin. Il paye. Donc attention à la façon, au wording, comme le disait, les mots qu'on utilise, comme le disait Jean-Marc il y a 5 minutes, parce que c'est quand même très important de temporiser les choses. Après, derrière, évidemment, le propriétaire, de toute façon, il paye tout le temps, parce que dès qu'il a une résidence secondaire, on imagine que c'est une maison au Cap-Ferret ou à Saint-Tropez, on ne pense pas aux résidences secondaires qui sont souvent des maisons familiales, des petites maisons à la campagne, etc. Donc on se classe dans les riches, qui, je vous le rappelle, maintenant ne sont plus à 4 000 euros, comme on le disait avec M. Hollande, mais qui maintenant, aujourd'hui, est descendu à 2 000 euros. Donc vous devenez riche.
Ça vient, ça. Pourquoi 2 000 euros ?
Vous regardez en ce moment ce qui se passe sur le Macron, le patron des riches. Ce n'est pas le sujet du jour, mais à partir de 2 000 euros, vous payez des impôts en France. En dessous, vous n'en payez pas. Donc, en fait, comme il y a eu des réductions d'impôts, pour les gens qui payent les impôts, bah forcément, ça a profité aux plus riches. Voilà.
C'est-à-dire les gens qui payent les impôts. Juste l'Observatoire des inégalités n'a pas du tout ce genre de définition de la richesse. Donc, je ne sais pas quelle est votre source,
c'est l'article qui est publié ce matin sur l'étude qui a été faite sur cette notion-là disait qu'à partir du moment... c'est mon métier là-dessus, donc je sais que les gens qui payent 2000, qui gagnent 2000 euros en moyenne...
Donc, vous dites que c'est la catégorie qui est reconnue par les statistiques comme des personnes
riches. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous allez payer des impôts. À partir du moment où vous payez des impôts, si l'État fait un gain sur les impôts, forcément vous allez en profiter. Si vous êtes 50% de la population et que vous n'en payez pas, c'est pas grave, c'est pas le sujet, c'est que vous n'allez pas profiter de cette baisse. L'immobilier, les propriétaires, c'est la même chose. On parle du propriétaire qui va payer, oui, et tout de suite on voit, parce qu'on est français. On est français, on a ce réflexe de français.
On va réagir après.
On a ce réflexe de français, on pense tout de suite à l'immeuble dans le 8e, on pense tout de suite à la maison au Cap Ferret. Les propriétaires français sont des gens de la classe moyenne, sont des gens endettés. Donc évidemment, IFI, taxe foncière, impôt sur le revenu, il n'y a pas de flat tax pour l'immobilier, je vous le rappelle, ça a profité à tout le monde, sauf aux propriétaires. Les propriétaires, ils continuent à payer sur leur TMI, plus CSG, CRDS de 17,2. C'est très lourd, et je trouve que c'est pas un bon souci, alors qu'on a appris tous qu'il fallait qu'on fasse de la France un pays de propriétaires.
Vous voulez réagir à ça ?
Je vous avais dit, Nicolas, que ça allait...
Vous voulez réagir à ça ? Sophie Alsif, le propriétaire Vache à Lait. Ils vont être ravis, les gens qui nous écoutent. Oui, Jean-Marc, ça vous...
Enfin, c'est pas... La récolte de lait ne va pas être énorme, quoi.
Oui. Pourquoi ?
Ça va être combien en taxes d'habitation ? Ça va être quelques centaines d'euros.
Ah, en termes de recettes ?
Quand on parle de taxer propriétaire, enfin...
C'est très juste, ça.
Je crois qu'il faut raison garder.
Hein. C'est-à-dire, je comprends bien ce que vous voulez dire.
Là où va augmenter la taxe foncière, c'est, comme le disait Stéphane, c'est dans des endroits où elle était particulièrement basse. À Paris, il y a une aberration. Si vous êtes propriétaire à Paris, vous payez moins de taxes foncières que n'importe qui habite autour de Paris.
Ça, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? On peut en discuter. Hein. Et les taxes d'habitation sur les résidences secondaires, ça ne va pas être partout, ça va être ville par ville.
Une hausse de 60%. Dans déjà 5000 communes qui ont annoncé les niveaux de taxes d'habitation sur résidences secondaires.
Ça va être combien ? Ça va être combien ?
J'ai pas les mots.
Non, on focalise sur la hausse, mais pas sur qu'est-ce que tu récupères en termes de...
Voilà, donc je pense qu'il faut... on ne taxe pas encore les... C'est pas cette fois-ci que c'est le grand drame pour les propriétaires.
C'est pas ce qu'on
ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est agréable.
C'est pas ce qu'on dit. Non.
Je pense qu'ils n'ont pas le même ressenti.
C'est encore une fois. Donc c'est à Paris entre 200 et 650 euros, selon la taille de votre appartement, entre les T2 et les T4. Oui, c'est que quelques centaines d'euros. Quand vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui avait des grands moyens à Paris, que vous vous prenez 600 balles d'augmentation, ça pique. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, hein, Sophie. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont malheureux. Je veux pas passer pour le mec, le patron des riches ou président des riches. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de reprocher au président de la République. C'est qu'en fait, comme il y a de l'argent à un endroit, même si c'est pas beaucoup, c'est là encore qu'on va le prendre. Au lieu de réfléchir au système.
Quand on paye anormalement peu d'impôts à un endroit et que ça monte, ça fait mal.
Cet argument est imbattable.
Mais ça n'est pas aberrant.
J'ai commencé par
De même, dans l'autre sens, Macron président des riches, quand on abaisse des impôts qui sont anormalement élevés, ce qui était le cas pour l'imposition du capital en France par rapport à tous les pays européens, dans ce cas-là, effectivement, on avantage les riches. Mais ce n'est pas forcément aberrant de le faire.
Voilà.
C'est notamment...
Juste pour réagir par rapport à ça... peut-être plus sur les données, parce que là, je vois qu'il y a aussi un fonds, en effet, de vision, notamment sur l'immobilier, c'est toujours très brûlant. En tout cas, quand on regarde, et c'est encore ma casquette d'économiste, donc je sais que vous n'allez pas aimer, mais il y a aussi cette taxe sur l'immobilier, parce que ça crée beaucoup moins de valeur ajoutée. Et que le but, toujours, encore une fois, mais malheureusement, on l'a dit encore, la démographie n'ira pas dans le sens, c'est d'essayer de taxer ce qui crée, on va dire, moins de valeur ajoutée et de taxer beaucoup moins ce qui en crée beaucoup plus, qui est bien évidemment l'investissement dans l'innovation et les entreprises.
Et je suis content de vous entendre dire. Aujourd'hui, je passe une bonne matinée. Merci Nicolas. Parce que là, j'ai quand même l'économiste qui défend quand même le camp que je ne défends pas, qui est en train de me dire qu'il faut baisser plus de taxes sur l'économie réelle qui crée de la valeur. Je suis ravi, je suis dans l'entreprise.
Exactement.
En fait, faisons-le. Et comme on ne le fait pas non plus, il y a quand même un petit paradoxe dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, mais je suis ravi. Ça me convainc que je ne pense pas forcément mal. Mais alors là, c'est
Laissez-la
essayer de finir quand même.
Laissez la réalité.
Plus nuancé et plus lancé. Quand vous regardez, en tout cas, on l'a dit, les impôts de production et autres, ou encore le taux d'impôt sur les sociétés, si depuis, en effet, 2020, et c'est encore le FMI qui le dit récemment, on baisse les recettes et on baisse justement les impôts sur les entreprises pour essayer d'accroître notre compétitivité. Donc là, sur 20 ans, je pense que vous ne pouvez pas avoir ce constat-là. Par contre, en effet, c'est pour ça aussi qu'il y a eu la réforme d'impôt sur la fortune, hein, qu'on peut critiquer, qui peut être contestable ou pas, mais l'idée, c'était toujours de dire qu'en effet, on taxe plus ce qui crée peu de valeur ajoutée, on taxe moins ce qui en crée beaucoup. Et quand vous voyez qu'en effet, on a un très fort ralentissement des gains de productivité, ben, en effet, économiquement, ça va plutôt dans le bon sens, d'où ce type de réforme qui encore, en effet, rapportera pas beaucoup en termes de recettes.
Pour finir sur du positif, bon, parce que je vais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, parce que ça c'est très juste. Maintenant qu'il y a la loi climat et résilience et qu'on va on va parler de transition écologique qui va toucher 80% de l'immobilier français, hein, parce que F, G et puis plus de 450 mégawattheures, c'est-à-dire les passoires thermiques, il y en a beaucoup en France, y compris en province, mais alors beaucoup à Paris évidemment.
C'est une bombe.
Là, il va y avoir
une bombe sociale.
Oui, mais là c'est juste ce que vient de dire Sophie. Il y a une valeur ajoutée potentielle. L'immobilier redevient une valeur créatrice d'emplois, créatrice de normes dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de contrôle, de sécurisation, de labels. Et ça, c'est très 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 important parce que c'est ça qui vous rend compétitif. Et donc là, il y a une valeur ajoutée à aller chercher. Et l'immobilier, je suis d'accord, redevient une vraie valeur ajoutée. Même si on peut en discuter.
Dans la mesure où les propriétaires pourront sortir les 35 000 ou 40 000 euros en moyenne qu'il faut passer d'un F, G.
Soyons honnêtes, ils ont des aides et le déficit foncier pour les travaux a été multiplié par deux. C'est passé entre les deux, mais vous savez que là, vous avez la possibilité de déduire vos travaux, ça vous met en déficit. C'est déductible de vos revenus à côté, pas que des loyers. Donc il faut aussi. Attendez, vous voyez ce que je veux dire ? Je veux bien être le libéral de service, mais il faut aussi que les gens soient raisonnés. Je dis juste.
Voilà. Oui, allez-y, Jean-Marc.
Non, juste sur cette histoire de rénovation des logements, France Stratégie travaille sur un projet assez intéressant qui consiste à faire un opérateur qui prendrait en charge non seulement la maîtrise d'ouvrage des travaux, mais aussi la maîtrise financière et en se remboursant ensuite sur les économies d'énergie. Donc voilà, il y a un vrai potentiel. Ouais.
On a deux minutes. Tiens, Stéphane Van Uffel, question 2023. L'épargnant, il arbitre comment entre le livret A et l'assurance vie ?
Comme avant. Le livret A, c'est garanti, c'est ultra liquide et c'est de l'épargne de précaution si vous devez changer un pneu ou faire des petits travaux justement dans votre appartement d'urgence, la chaudière.
Et c'est exonéré.
Voilà. D'impôt. L'assurance vie, tout est fait. C'est la boîte à outils de la gestion de patrimoine. C'est pas comparable. En termes de risque, évidemment, vous pouvez en prendre plus ou moins. C'est beaucoup plus flexible et surtout, c'est une vision à long terme. L'assurance vie, ça porte bien son nom. On place sur le livret A pour garder de l'argent pour les vacances à court terme, en général entre 4 et 5 mois de salaire maximum. C'est pour ça que les livrets ne sont pas du tout en moyenne au plafond autorisé.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, les Français ne gagnent pas assez d'argent pour avoir ces plafonds à plus de 20 000 euros. En revanche, l'assurance vie, ça peut servir pour tout. Ça reste liquide, mais à 15 jours, 3 semaines, pas à 24 heures. Ça reste parfaitement fiscalement intéressant à terme, même si ça l'est moins qu'un livret A qui est exonéré. Mais théoriquement, sur du long terme, vous pouvez gagner plus d'argent avec aujourd'hui énormément de secteurs dans lesquels vous pouvez investir. Du garanti 100%. Mais également de l'immobilier, des UC, des fonds thématiques, des choses très intéressantes dans le long terme. Donc, ce débat qu'on a toujours, c'est pas la même chose, vraiment. Et en fait, ben, je vais vous répondre, il faudrait faire les deux. Je pense que le problème en France, c'est que le déséquilibre est trop favorable au livret d'épargne de précaution disponible et pas assez à ce qui sert vraiment les Français à terme, y compris en termes de succession, qui est l'assurance vie ou le PER, parce que ça pourrait être aussi une solution si on parlait de retraite.
Ça fonctionne pas mal, le PER.
Mais tant mieux.
Les chiffres sont supérieurs aux espoirs qui avaient été inscrits dans la loi Pacte au moment où ça a été adopté. Merci à tous d'avoir été là.
Merci.
C'était Anne-Sophie Alsif, Stéphane Van Uffel et Jean-Marc Vittori. On se retrouve lundi à 9h.